Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AA.
Nous sommes installés au AA. Est-ce que en visio vous nous entendez ?
Oui, ça marche.
Donc, pour cette intervention, nous sommes quatre, donc on va essayer de faire vite. Donc, Virginie Meunier et moi-même qui sommes au laboratoire Créneau AAU, et puis Armand Dutertre de la société Articonnex, on va vous en parler tout de suite, et Anis Tlemani, excuse-moi pour la prononciation, qui va intervenir et effectivement à la fin. Donc, on va faire un passage de parole rapide. Et si on est ici, c'est parce qu'on va vous parler des dispositifs qui sont exposés là autour de nous. C'est la télé qui parle en même temps. Ouais. Donc, l'une des principales missions de l'architecte, ça va être de susciter des émotions dans les espaces qu'il crée. Et donc, pour ça, il faut faire vivre des expériences sensibles. Donc, c'est pourquoi, pour nous, il est important de révéler un rapport particulier, en fait, à la matière, qui soit à la fois physique, mais également sensible. Car, comme le dit Palasma, je cite, « Toute expérience de l'architecture qui nous touche est multisensorielle. Les qualités d'espace, de matière et d'échelle se mesurent également par l'œil, l'oreille, le nez, la peau, la langue, le squelette et les muscles. » Donc, il va y avoir un diaporama aussi. On expérimente. Voilà, exactement. Merci, Grégoire. Bien, donc, comme je le disais, pour développer ce rapport particulier à la matière, nous proposons à l'installante ici un enseignement qui donne une large place à l'expérimentation. Si on peut voir à travers l'expérimentation, comme le dit Antoine Picon, une simplification d'un problème, nous on y voit davantage un moyen de projeter ou d'isoler en tout cas une question particulière de manière à la mettre en lumière par un regard qui est orienté, qui zoome sur un élément en particulier pour penser et construire autrement les espaces et les ambiances. Car comme le dit Grégoire Chelkoff, je cite, « Expérimenter, c'est aussi sortir de certaines habitudes et de certaines normes de compréhension et d'action pour extraire de nouveaux ressorts et d'autres pratiques. C'est donc aller vers des manières de concevoir et de construire qui sont inhabituelles et inédites. » Donc merci Martha, je vois le diaporama qui s'affiche en même temps. Donc si tu m'entends, est-ce que tu peux passer quelques diapos ? L'expérimentation, on la trouve également intéressante comme mode pédagogique parce qu'elle va détenir l'intérêt de permettre aux étudiants de découvrir par eux-mêmes, de s'approprier des savoirs, des méthodes de pensée et des méthodes de travail. L'expérimentation physique de la matière aussi, elle nous permet de susciter l'éveil et l'intérêt, l'attrait des étudiants pour des matériaux dont les caractéristiques propres vont les entraîner vers un rapport sensible. À travers la manipulation du matériau, l'expérience sensorielle est donc érigée comme moyen d'appréhender l'espace et les ambiances et de les concevoir. Donc c'est par ce travail conjoint entre les matières visibles, c'est-à-dire les matériaux, et les matières invisibles, c'est-à-dire les ambiances, qu'on se différencie des enseignements qui sont plus couramment délivrés dans les écoles d'architecture et qui traitent habituellement séparément les caractéristiques structurelles et physiques de la matière d'un côté et les caractéristiques poétiques et symboliques de l'autre.
Donc l'enseignement qu'on propose ici à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, qui est intitulé « Matière d'ambiance », qui est intitulée matière d'ambiance, elle, effectivement, comme disait Céline, donne une large place à l'expérimentation, puisque en fait, il est proposé aux étudiants de travailler sur la question des ambiances, donc la matière qu'on appelle invisible, à partir de matière et à partir de la manipulation de matière du coup visible, les matériaux. En fait, plus concrètement, on demande aux étudiants on propose aux étudiants de concevoir et de construire un dispositif d'ambiance, comme vous pouvez voir autour de vous, c'est un dispositif d'ambiance habité qui permet de faire vivre une expérience sensible qui inclut une partie du corps ou l'ensemble du corps. Alors ce travail sur effectivement la matière, elle donne lieu à des détournements de matière qui génèrent à la fois des nouvelles esthétiques, des nouvelles mises en œuvre, mais aussi des nouvelles ambiances. Voilà. Alors le travail, il est décomposé en plusieurs phases. En fait, ce qui est important pour nous, c'est effectivement de partir de cette matière brute que les étudiants découvrent et découvrent dans toute leur qualité technique, bien sûr. Mais en fait, l'idée, c'est de les emmener en fait vers des dimensions plus sensibles, jusqu'à la réalisation et à la construction en fait de dispositifs d'ambiance qui peuvent en fait éprouver. On a vu ce matin qu'effectivement la question des ambiances, ça se vit. Donc l'idée de construire et d'éprouver est centrale aussi dans cette approche de l'enseignement. Alors la conception du dispositif d'ambiance, il repose en fait sur une seule et même matière. En fait, c'est la règle qu'on s'est donnée. Alors évidemment, cette matière, elle est retenue par le potentiel d'ambiance qu'elle a. Enfin, en tout cas, qu'elle peut générer. Alors c'est vrai que le potentiel évocateur de sensations et d'émotions, il n'est pas forcément perceptible au premier regard, au premier contact avec la matière. C'est pourquoi en fait les tests, les manipulations, les expérimentations de la matière, mais associées au développement d'un imaginaire ou d'une poétique, est absolument nécessaire pour dépasser à la fois les préjugés qu'on a sur cette matière, aller ouvrir le champ des possibles, mais aussi aller révéler en fait justement les qualités sensibles de cette matière qui sera en capacité de générer une ambiance. Du coup, les étudiants donc mènent un certain nombre. Alors vous voyez les réalisations finies là, mais les étudiants ont mené énormément d'expérimentations qui peuvent effectivement aller en fait. Guillemets un peu dans tous les sens, mais c'est ce qui est souhaité. Il s'agit surtout en fait qu'ils testent par eux-mêmes le matériau et puis qu'ils rétablissent aussi en fait le lien entre les données issues de leurs propres expérimentations, c'est-à-dire leur propre analyse, observation, etc., et du coup les caractéristiques physiques qui sont enfin les données qui sont issues des caractéristiques physiques données par les fabricants. Et tout ça pour aller au-delà en fait du premier contact avec la matière, pour en révéler en fait ses qualités sensibles et puis aussi esthétiques. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a toujours comme objectif d'ancrer ce travail dans le réel l'idée aussi c'est d'alimenter en fait les connaissances pour les étudiants des ressources du territoire, mais aussi de la connaissance des matériaux. Pour cela, et bien en fait, on s'est donné aussi comme règle de collaborer chaque année avec un partenaire alors qui porte des valeurs environnementales et qui aussi se montre intéressé par des approches de la matière un peu, entre guillemets, décalées, avec effectivement l'intérêt de développer en fait la dimension sensible de la matière. Alors c'est vrai qu'au cours de ces quelques années là, il y a eu des belles collaborations qui sont nées entre du coup architectes, mais aussi enseignants, étudiants et fabricants, qui ont parfois dépassé le cadre pédagogique pour du coup investir le cadre professionnel. Donc c'est aussi, c'était pas envisagé comme ça au départ, mais c'est vrai qu'en fait on voit bien aussi que les choses évoluent dans le temps et que les intérêts, là, on rencontre des gens d'horizons très différents, mais finalement des gens avec qui on peut aussi construire et peut-être quelque chose une approche sensible, un peu multi-regard.
Martha, tu peux passer la diapo, merci. Donc en fait, les différentes expérimentations qui sont menées à chaque fois par les étudiants sont vraiment propres évidemment à la matière qui est travailler. Ces matières étant très diversifiées d'une année sur l'autre ou même au sein d'une année en fonction des partenariats que nous avons établis. Et donc pour vous présenter là aussi rapidement ce que nous avons fait jusque-là et le panel très large des expérimentations menées. Donc on va illustrer le travail des étudiants par trois partenariats plus particulièrement. Qui montre encore une fois la variété de ces expérimentations-là. Et c'est vrai, comme le disait Virginie, que quel que soit le matériau travaillé qui peut-être à l'origine ne semblait pas être un matériau particulièrement riche en ambiance, en fait on voit que ces matériaux ont été retenus parce qu'ils détiennent la capacité à créer une ambiance une fois qu'ils sont travaillés. Donc sur la diapo suivante, on mentionne un premier partenariat que nous avions établi il y a quelques années avec Cavac Biomatériaux, qui est un fabricant de matériaux biosourcés situé à Saint-Gemme-la-Plaine en Vendée. Et donc là, l'expérimentation que nous avons menée se situait dans la proposition de transcender la matière donnée aux étudiants, c'est-à-dire la chaîne VOT, qui est un matériau habituellement utilisé comme matériau isolant dans le mélange chaud-chanvre, pour en faire, on va le voir sur la diapo suivante, pour en faire un matériau d'ambiance à travers lequel on perçoit des jeux de lumière, des jeux de couleurs, où la chaîne VOT va être révélée à travers cette expérimentation. Et donc là, les étudiants ont mené des expérimentations qui consistaient à mélanger cette chaîne VOT avec différents types de liants. Et ils ont finalement retenu la colophane comme liant pour conduire à la proposition d'un progène. C'est ce qu'on voit sur la diapo suivante, où les étudiants proposent un pavillon lumineux qui s'éclaire un peu à l'image d'une lanterne, dont la chaîne VOT va venir filtrer la lumière, qu'elle soit émise ou reçue. Alors je précise seulement, c'est pas un atelier de projet, hein. Cet enseignement, il est uniquement sur 6 jours, donc on ne va pas détailler des questions plus techniques, etc. L'idée est vraiment de découvrir un matériau et puis de l'exploiter jusqu'au bout dans ses caractéristiques propres pour proposer une ambiance singulière. Un autre type d'expérimentation sur la diapo suivante, cette fois c'était un partenariat avec une scierie, Pifetobois, qui est située également en Vendée. Et là, l'expérimentation se situait davantage dans le détournement d'un matériau, plus particulièrement le CLT, donc le bois lamellé collé, qui n'est pas spécialement un matériau d'ambiance au départ, hein, c'est plutôt un matériau qui est utilisé, qui a un usage structurel. Et là, sur la diapo suivante, on va voir, donc, les étudiants ont montré qu'ils pouvaient proposer un dispositif de contrôle des ambiances et offrir différents usages. Donc là, c'était un dispositif appelé par les étudiants le basculator, en fait, qui prenait la forme d'une paroi verticale, uniquement composée donc de bois et de systèmes d'encoches, qui permettait de faire basculer des panneaux pour offrir différents usages comme un banc, une table, une étagère, un comptoir, etc. Mais aussi qui permettait de révéler donc des vues sur l'extérieur, un contrôle de l'ensoleillement par un dispositif donc de protection solaire qui se manipule, et aussi un rapport d'intimité. D'autres étudiants, sur la diapo suivante, donc ont proposé un système plutôt qui s'apparente aux mouches à rabier, et qui la filtrait la lumière pour donc en faire une protection solaire en fonction de la superposition des panneaux qui étaient tous percés différemment avec un motif dessiné par les étudiants. Et donc là, directement, l'observation et les premières phases d'expérimentation de la matière autour du CLT, donc qui mettait en avant l'épaisseur du panneau de CLT et puis son poids aussi très important, a dirigé les étudiants vers l'utilisation de la découpe numérique, la CNC 5 axes qu'on a à l'école et qui permet donc de réaliser des motifs. Encore fallait-il déjà tester ces motifs dans leur dimensionnement, le rapprochement de l'un par rapport à l'autre, etc. Donc ces nombreuses expérimentations ont notamment permis de détailler les découpes et les réalisations de réserves qui ont été faites pour optimiser donc le système d'assemblage. Sur la diapo suivante.
Donc cette année, en fait, face au contexte de la RE 2020 qui en fait implique une réflexion profonde sur les modes de construire et pour construire effectivement bas carbone. Nous avons effectivement collaboré avec un partenaire très engagé, local, mais très engagé sur la question de la réutilisation et du réemploi. Donc c'est Articonnex, hein, comme vous pouvez le voir, donc représenté ici par plusieurs personnes. Hein, Armand Duterte qui a suivi aussi ce projet et qui aura la parole tout à l'heure. Alors juste, je me permets juste deux petits mots, il vous parlera sûrement d'Articonnex, mais en fait, nous, ce qui nous a aussi intéressé dans ce partenariat, c'est le fait que le leitmotiv, c'est réduire le gaspillage de matériaux dans le secteur du bâtiment. Et effectivement, les expérimentations qui ont été menées dans le cadre de cet enseignement, en fait, s'inscrivaient et prolongeaient cette envie de redonner une valeur, du coup, à des matériaux qui auraient pu être considérés comme déchets. Effectivement, des matériaux qui ne valent finalement pas grand-chose. Enfin, évidemment, hein, je mets des guillemets. Armand, tu y reviendras sûrement. Donc, je vais te laisser du coup la parole. Je voulais quand même juste préciser, c'est aussi précisément parce qu'on évolue dans un monde aussi d'images que le visuel, il est prépondérant en fait dans nos perceptions et que. En fait, nous, il nous semblait important aussi de retrouver et de réintégrer ce rapport aux autres sens, notamment, vous le verrez à travers les dispositifs. Je pense que voilà, Armand et Anis aussi en parleront. Alors, on a fait le choix, je fais une petite parenthèse, de laisser en fait les partenaires en fait parler des dispositifs. Dans leur retour, dans leur retour d'expérience, mais aussi dans le retour qu'ils peuvent faire aussi de ces dispositifs. Voilà, donc on peut peut-être passer la parole à Armand et à Nice. Alors, Armand Duterte, qui est directeur de projet chez Articonnex. Et puis, Anis, excuse-nous, on va encore accrocher ton nom, Tel Salmani, qui est donc architecte. Il est aussi diagnostiqueur et assistant à maîtrise d'ouvrage, en fait, réemploi et réutilisation. Voilà, on vous laisse la parole.
Ok, donc bonjour à tous. Là, c'est bon, on entend, c'est bon ?
Ouais.
Je fais une petite introduction et puis Anis, tu complètes après. Juste pour représenter Articonnex, mais bon, tu l'as déjà très bien fait. Articonnex, c'est une entreprise qui veut lutter contre le, enfin, qui œuvre pour réduire le gaspillage dans le bâtiment. Donc en récupérant des matériaux qui sortent des circuits traditionnels pour les remettre sur le marché. Ça va être des matériaux, tout un tas de matériaux, mais notamment des matériaux de réemploi, donc des matériaux qui sont vraiment destinés à être des déchets et à être traités comme des déchets, quoi. Et nous, l'objectif, c'est de les récupérer pour éviter qu'ils prennent le statut de déchets et qu'ils soient réemployés pour des nouveaux projets. Articonnex, c'est tout simplement des entrepôts magasins avec toute une équipe derrière qui travaille pour récupérer ces matériaux et les remettre en valeur et les revendre dans les entrepôts magasins. Quand l'ENSA nous a sollicité pour nous demander si on voulait... au projet, bah évidemment, pour nous, on a tout de suite dit oui, parce que on trouvait que c'était une bonne manière de valoriser les démarches, de valoriser les matériaux du réemploi, qui sont souvent un peu vus comme des matériaux qui ont peu de valeur. On trouvait ça super intéressant d'aller porter un nouveau regard sur ces matériaux, et on trouvait aussi très intéressant de mettre en avant la démarche de conception à partir de la matière. Puisque, effectivement, les étudiants, on leur a mis dans les pattes des matériaux qui, franchement, ne faisaient pas forcément envie comme ça. Et puis, ils se sont débrouillés avec pas mal d'astuces pour les mettre en œuvre différemment et en faire des matériaux qui suscitent vraiment l'intérêt et qui suscitent des ambiances très, très, très intéressantes. Et puis on pense que c'est une démarche qui est importante dans le réemploi, c'est-à-dire de travailler avec les gisements disponibles, les gisements locaux disponibles. Et donc c'est une manière aussi de mettre en avant cette démarche. C'est aussi tout simplement, on trouvait ça intéressant parce que c'est la démarche, elle révèle un vrai potentiel d'upcycling de ces matériaux, qui sont des matériaux assez récurrents du réemploi. Et puis je dirais aussi, quelque chose qui nous a bien motivé pour le projet, c'est d'embarquer les étudiants. Il y a une quarantaine d'archis nouvelle génération qui sont confrontés à ces matériaux. Et ça, on se dit que c'est pas mal. Ça peut peut-être susciter quelques petites vocations, ou en tout cas des envies futures sur les prochains projets. Enfin, je dirais que ça va, je pense, susciter aussi l'envie des maîtres d'ouvrage, des promoteurs, des archis que vous êtes autour ici, à avoir envie peut-être d'aller dans ce genre de démarche. Voilà. Je finirai juste l'intro en vous expliquant comment on a choisi les matériaux avec l'ENSAI, avec Anis. Comment on a choisi les matériaux. Alors, tous les matériaux, c'était des matériaux qui étaient destinés à devenir des déchets et qu'on a récupérés à un moment donné parce qu'on s'est dit qu'il y a un potentiel de réemploi, on ne veut pas que ça parte à la benne, on ne veut pas que ça parte en recyclage ou en traitement divers de déchets. Et donc, c'est des matériaux, c'est des chutes d'industriels. C'est des matériaux qui ont, ou bien des matériaux qui ont été déposés dans le cadre d'un chantier de déconstruction assez propre, ou des matériaux tout simplement des, on va appeler ça des retours clients, qui sont destinés à la benne parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un matériau qui est un retour client. En général, il finit à la benne. Donc les résultats sont... donc c'est des matériaux qui étaient tous destinés à être des déchets et aussi des matériaux qu'on avait des difficultés à revendre, à remettre sur le marché. Voilà, parce qu'ils avaient des caractéristiques qui étaient soit... Enfin, je les présenterai après. Mais du coup, on trouvait ça intéressant aussi de donner de la valeur sur... De remettre en avant des matériaux qui avaient plutôt du mal à trouver repreneurs dans notre entrepôt magasin. Et puis des matériaux en quantité, comme ça, effectivement, ça peut nous inspirer pour des matériaux qu'on peut trouver à profusion sur des chantiers de démolition.
Oui, du coup, y a peut-être un aspect aussi sur lequel il faut revenir, Armand, alors que tu as évoqué, enfin, ou que Virginie, tu as évoqué tout à l'heure sur l'aspect un peu zéro gaspille, on va dire, parce que on parle de plus en plus de plateformes aujourd'hui de réemploi, mais en fait, ArtiConnect, c'est sur un modèle qui est beaucoup plus hybride, qui n'a pas, à ma connaissance, réellement d'équivalent aujourd'hui en France, parce qu'en effet, vous remettez sur le marché à la fois des matériaux issus du réemploi, certes, mais aussi beaucoup de matériaux neufs, qui soient déclassés, soit erreurs de commande, soit... Enfin voilà, des choses qui ne trouvent plus pour X raisons preneurs. Et du coup, c'est plutôt malin parce que ça élargit le potentiel et qu'en effet, ça, c'est souvent l'impensé du gaspillage dans le bâtiment. C'est tous les matériaux neufs qui repartent à la benne. Et au final, plus vous travaillez le sujet, plus vous apercevez de l'immensité en fait, de ces gisements dormants quoi, qui sont disséminés partout. Enfin voilà, donc ça, c'est quand même un point assez important et c'est ce qui aussi a permis pour le coup d'élargir aussi le champ des expérimentations parce que il y a des matériaux issus de déposes méthodiques, donc de réemploi tel quel. Enfin, de réemploi, je vais y venir après sur les notions réemploi et réutilisation parce qu'il y a aussi une nuance, on va dire... à la fois au sens légal, mais aussi en termes purement applicatifs. Et il y a aussi des matériaux, pour le coup, qui ont déjà eu une première vie. Et d'ailleurs, on ne les distingue pas toujours forcément. S'agissant, par exemple, des dalles de moquette, c'est de la seconde main, mais bon. Oui, peut-être un petit point justement sur cette dissociation, cette distinction plutôt entre réemploi et réutilisation. En fait, la notion, enfin, les deux notions se distinguent principalement par rapport à l'usage qui en est fait. C'est-à-dire que la réutilisation, en fait, est un détournement d'usage, alors que le réemploi implique un usage, enfin, un réemploi à usage identique, en fait, tout simplement. Et c'est une notion qui aujourd'hui a été actée, enfin, qui est inscrite dans le code de l'environnement. Il y a un article dédié, voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter du coup sur la diversité de la provenance. Alors peut-être le choix, en fait, ce qui a motivé du coup au choix de ces différents éléments, enfin, en définitive, dans le tour qu'on a pu faire, c'est vrai qu'en les manipulant, certains avaient d'évidents potentiels. Typiquement, les résilles, les faux plafonds, en fait, ce sont des faux plafonds à la base, micro-perforés. Et d'autres en avaient beaucoup moins. Et pour le coup, c'était des choses qui étaient là, dont on ne savait pas très bien au final ce qu'on pourrait potentiellement en faire. Et c'est vrai que les étudiants sont assez étonnants dans leur capacité à détourner des matériaux dont spontanément on ne verrait pas forcément comment les détourner de leur usage premier. Alors là, on a retenu une sélection plutôt de 4 parce qu'il y avait 8 familles de matériaux différents, matériaux et produits. D'autres sont plus loin. Il y avait notamment de l'autre côté, bon, si vous avez fait un tour, vous les avez peut-être vu, des colliers de serrage pour des conduits de ventilation. Donc ça, c'était peut-être le plus improbable. Enfin, on a aussi il y avait aussi des joints de menuiserie, pas évident non plus comme sujet. Voilà. Donc après, je ne sais pas comment on procède pour aborder la question des... Ouais ? Ok.
Alors, on fait le focus sur juste 4 dispositifs parce qu'on n'a pas le temps de tous les présenter. Là, on a le premier dispositif qui s'appelle « Au bout du rouleau ». Voilà, c'est le nom qui a été retenu par les étudiants. Donc, les étudiants, on leur a mis entre les mains des dalles de moquette. Alors, les dalles de moquette, elles sont pleines. Là, je n'ai pas d'exemple, mais imaginez que la dalle de moquette, elle est pleine. C'est des dalles de moquette qui ont déjà servi, qui ont été collectées sur un immeuble, sur un chantier de curage propre d'un immeuble à Vannes, par une structure d'insertion Économie Circulaire 56, qui a une dépose propre. Et donc, nous, on a récupéré ces gisements pour les remettre sur le marché. C'est des moquettes qui ont quand même des traces d'usage, voilà, et qui ont un motif un peu particulier. Et donc les étudiants ont voulu transformer cette matière pour lui apporter plus de relief, plus de structure. Et donc ils ont eu l'idée de faire des rouleaux. Alors au début des rouleaux comme ça, et puis petit à petit le dispositif a évolué. Ils ont réussi à faire des patrons avec des encoches qui permet de rouler et en même temps d'accrocher au rouleau d'à côté. Et donc c'est quelque chose qui est duplicable, qui est à la limite même industrialisable. Et en fait, vous avez, alors je vous inviterai à les tester, hein, parce que c'est vachement sympa, très confortable. Et donc en fait, on peut faire du mobilier avec ça, qui s'accroche un peu partout, qui est modulaire, qu'on décroche, qu'on réassemble, etc. C'est vachement astucieux et c'est très confortable. Donc là, on est sur le toucher, le confort. Tout bêtement, avec une modularité dans l'espace.
Vous n'avez pas testé acoustique ?
Ça peut aussi, oui.
Peut marcher dessus ?
Ah oui ?
Oui, c'est vraiment résistant. Ils ont pas mal travaillé sur l'encoche pour la. Ils ont fait des tests avant de trouver le bon prototype, quoi.
Il y a un rapport au corps évident. En fait.
Rapport au corps, oui. J'ai dit toucher, c'est non, voilà, c'est pas. Alors j'enchaîne avec le deuxième dispositif, mais après on vous laissera profiter des différents dispositifs. Donc le deuxième dispositif, il s'appelle Moirage. Voilà. Là, les étudiants, ils avaient dans les mains ces dalles de faux plafond. Voilà. Donc c'est des dalles de faux plafond micro-perforées. Il y avait un petit géotextile juste derrière, enfin un petit textile juste derrière, qui avait un rôle acoustique et qu'ils ont enlevé pour justement utiliser les effets de lumière et le moirage en superposant deux plaques, en espaçant deux plaques d'une distance, une distance d'environ 10 cm, 10-15 cm. Donc là, les étudiants, ils ont eu l'intelligence d'assembler ça juste avec des petites vis. Hein, le système d'assemblage est vraiment tout très simple. Et de créer ces différences de reflets, de jeux de transparence, de moirage. C'est le terme qu'ils ont, qui est, voilà, le terme approprié, en créant ces facettes juste avec du pliage. Voilà. Et pour rigidifier la structure, ils ont mis quelques éléments de bois à différents intervalles. Et voilà, la structure, elle se tient toute seule assez bien. Et les effets effectivement de lumière, de transparence sont assez réussis. Qu'est-ce qu'on peut dire Oui, l'intimité, les jeux de lumière, d'intimité, voilà. C'était ça le bon mot. Voilà. Voilà, donc c'est assez incroyable de voir le résultat. Voilà, on imagine très bien ça dans un bureau ou dans un espace de travail pour aller séparer des espaces, quoi.
Donc, un troisième dispositif, porte-à-porte, donc, qui est exclusivement basé sur des portes pleines acoustiques. Et qui pour le coup est une déclinaison, presque une mise en abîme du principe d'ouvrant, hein, de la porte, qui a été déclinée sous forme de ventelle, enfin tout en constituant une espèce de micro-architecture qui décline le motif de l'ouverture via des découpes, via une segmentation des éléments de porte. Toute la quincaillerie, l'ensemble ne tient pas exclusivement avec la quincaillerie initiale des portes, mais on peut quand même remarquer qu'il y en a assez peu, l'essentiel de la quincaillerie ajoutée a surtout servi aux éléments mobiles. Voilà, donc ça c'était un exemple plutôt très réussi de mise en abyme du matériau, quoi. Ah oui, et puis qui produit effectivement tout un tas de variations d'ambiance et de lumière, oui, à l'intérieur. Également, oui, et c'est vrai. Je joue en gros sur toutes les dimensions physiques des ambiances. On va passer du coup à la dernière, au dernier prototype. Alors le dernier dispositif, pour le coup, exploite des dalles de faux plafond acoustique minéral à base de cellulose. C'est de cellulose, c'est ça, oui, et avec une incorporation de gypse. Et donc qui décline un objet à la fois d'atténuation qui exploite en fait le potentiel d'affaiblissement acoustique de ces dalles tout en déployant quelque chose qui peut s'apparenter à des éléments de mobilier voilà, de meubles, de bibliothèques, etc. Mais il y a une réelle incidence en fait du matériau sur le rapport entre l'intérieur, puisque c'est un dispositif qui joue aussi sur un dedans et un dehors, et qui du coup offre un réel, quand on est à l'intérieur du dispositif, un réel affaiblissement acoustique, en plus d'évidemment de jouer sur les vues, sur la filtration des vues, voilà, et de la lumière. Alors, ce qu'il faut quand même noter dans l'ensemble de ces quatre dispositifs et aussi des autres, c'est que ça permet quand même de voir qu'il y a un réel potentiel applicatif en fait dans la réutilisation, en tout cas à cette échelle-là, parce que le sujet de la réutilisation est quand même beaucoup plus complexe à des échelles bâtimentaires du fait des contraintes normatives et réglementaires qui peuvent s'y appliquer. Là, c'est vrai qu'on est à une échelle qui permet quand même de déployer pas mal de dispositions qui relèvent plutôt de l'aménagement intérieur, de l'agencement, s'il s'agit d'y voir de possibles applications. Donc voilà, un bel exemple d'exploitation, du détournement pour le coup d'usage de matériaux. Vous voulez faire un mot de la fin ou...
Merci, on va remonter pour dans la salle. Plus confortable.
Donc on se retrouve en haut de l'escalier dans la salle. Pour ceux qui sont en visio, vous nous verrez peut-être mieux aussi.